Divorce. Actuellement, il y a de plus en plus de divorces dans le monde, plus précisément parmi les croyants chrétiens. Parmi ces divorces, il y a des divorces qui ne posent pas de problème. Certains autres en ont, et enfin d'autres impossibles. Cela dépend de la position des mariés vis-à-vis de Dieu, en tant que créateur ou père. Pour bien comprendre, les Écritures saintes doivent situer chaque couple, c'est-à-dire dans quelle position il se situe. Première position, allant du 18e verset au 25e verset du chapitre 2 de Genèse. Genèse 2, 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Dieu créateur créa l'homme et la femme en donnant cet ordre que l'homme et la femme sont un, et non deux. Car la femme n'a pas été créée comme l'homme. La femme est sortie de l'homme. Genèse 2, 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa peau. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Étant une seule personne de par leur existence, ils n'avaient pas honte de leur nudité. La désobéissance et la chute d'Adam et Ève, cela va bouleverser le plan de Dieu, car l'homme entre en rébellion contre Dieu. Il est chassé de la présence de Dieu. Il est libre. Mais n'étant plus soumis à l'autorité de Dieu, l'homme vit selon son désir, le désir de la chair. Il va épouser plusieurs femmes. Il va se séparer de sa compagne, comme bon lui semble. Ceux qui sont dans cette position par rapport à Dieu, ils sont libres de se séparer. Deuxième position, le divorce est réglementé par la loi de Moïse. Deutéronome 24, versets 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en inversion, écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. C'est très clair, on n'a pas besoin de faire de commentaires, car les Écritures définissent bien la procédure et les raisons de divorce. Donc cette loi a continué jusqu'à la mort du Christ. Spirituellement, la nudité d'Adam et Ève avait perdu sa valeur, jusqu'à l'arrestation du Christ, pour que cette nudité spirituelle retrouve sa place dans la vie du croyant chrétien, suiveur de Jésus-Christ. Marc 14, 51 et 52. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. À partir de là, c'est la troisième position. Cette troisième position a deux volets. Commençons donc par le premier volet. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Un homme pour une femme, comme au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme. Adam avait une seule femme et non deux. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Et versets 10 et 11. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Cette catégorie des mariés sont des croyants chrétiens, les enfants de Dieu par Jésus-Christ. Eux sont soumis à la loi de Jésus-Christ. Marc 10, versets 1 à 12. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?»« Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Cette loi, Jésus-Christ l'a établie pour tous ceux qui portent le nom du Christ sur eux, c'est-à-dire l'homme et femme croyants chrétiens. Un deuxième volet, c'est le couple d'un non-croyant avec un croyant chrétien. Donc, l'un est soumis à la loi du Christ, mais pas l'autre. 1 Corinthiens 7, versets 12 et 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? C'est clair, toi qui es croyant chrétien, tu es soumis au Seigneur. Tu ne peux pas divorcer.
Par contre, le non-croyant, il est libre de prendre l'initiative de divorcer.
Parce que lui n'est pas un enfant de Dieu, il est plutôt créature de Dieu. Dieu n'est pas son père, mais son créateur. Toi, tu es l'adopté par Jésus-Christ pour son père, l'enfant de la cour divine. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Romains 8, 15 à 17. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Les croyants chrétiens ont le même statut avant qu'Adam et Ève perdent cette gloire par la désobéissance, qui leur a coûté d'être chassés de devant la présence de Dieu. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais deux chrétiens qui se marient retrouvent la gloire de Dieu, parce que l'un comme l'autre, les deux ont l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu leur interdit de divorcer. Les chrétiens qui divorcent et se marient vivent dans le péché, car devant Dieu, ils restent toujours mariés. Seule la mort peut rompre cette alliance, ce contrat. S'ils se séparent,
alors ils doivent vivre en restant
sans se remarier, ni même un contact sexuel avec une personne autre que son mari ou sa femme. 1 Corinthiens 7, 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Beaucoup de chrétiens divorcent et se réfèrent à la loi de Moïse. C'est un manque de connaissance de la parole de Dieu et une mauvaise lecture des Écritures saintes, car les croyants chrétiens ne sont plus soumis à la loi de Moïse de la première alliance. Il est bon pour nous tous d'écouter ces quelques passages qui rappellent cela. Galates 3, versets 24 à 27. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Hébreux 8, 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec
la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. »
Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Frères et sœurs, maintenant nous allons voir en détail afin de bien comprendre et retenir ce que veut dire les trois premiers versets du chapitre 30 dans le livre d'Ésaïe, ainsi que le proverbe 10-22. Donc, Ésaïe 30, versets 1 à 3. Verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent une femme sans demander à Dieu, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Un mariage qui n'est pas de Dieu est un mariage d'intérêt, et si l'intérêt visé n'y est pas, eh bien, c'est du n'importe quoi. Infidélité, non-respect entre les deux conjoints, et bien d'autres. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Allez vers ce conjoint, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Cette femme ou ce conjoint est un Pharaon. Et cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. Cherchez l'amour qui n'est pas chez quelqu'un qui ne peut apporter le véritable amour. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Cet amour que tu as cherché par ce mariage n'est qu'un amour sans valeur, qui ne t'apporte rien, qui ne t'apportera pas la paix, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le vrai amour qui vient de Dieu apporte la paix et le bonheur. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc ici nous sommes sûrs que ce mariage vient de Dieu. Parce que entre l'homme et la femme étant réunis dans le même esprit de Dieu, il n'y a pas de contradiction, donc pas de séparation. C'est la contradiction qui provoque le divorce. Marc 10, versets 7 à 9. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous vous invitons à écouter l'enseignement mis à votre disposition sur ce site de Namourat, dont le titre est « Mariage entre hommes et femmes selon Dieu ». Voilà, frères et sœurs, pour cet enseignement sur le divorce, et le résumé est simple à comprendre. Le divorce est le résultat de la contradiction entre le Saint-Esprit et l'autre esprit qui rentre dans le couple, qui n'est pas celui de Dieu. Pour les croyants qui se trouvent actuellement sur un rond-point avec cette pensée de divorcer, vous sachant que la grâce est en Jésus-Christ, nous vous recommandons vivement de lire par vous-même 2 Corinthiens 13, verset 5. Car tant que les deux mariés sont sous l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, pour eux tout ira mieux. Voilà, frères et sœurs, amis en Christ, par cet enseignement audio que nous venons d'entendre, selon les Écritures saintes, que chaque couple puisse y trouver sa position. Et nous terminerons avec 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communication du Saint-Esprit
soient avec vous tous. Amen.